I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民南家
正忙。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, comme chaque vendredi, une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec un petit changement aujourd'hui quand même.Puisque après avoir eu le plaisir d'accueillir chaque vendredi des journalistes de Libération pour participer à ces débats hebdomadaires, je pense à Jean-Pierre Perrin, à Maria Malagardi, c'est désormais avec le journal Le Monde qu'on va sceller un nouveau partenariat. La raison du changement, eh bien, c'est le transfert d'une des grandes plumes de Libération, du service international qui a quitté Libération pour Le Monde, c'est Marc Semo. Bonjour Marc Semo.
Bonjour, merci Florian.
Voilà, donc on va se retrouver chaque semaine, c'est le changement dans la continuité avec Absolument. Vous Marc Semo. Merci beaucoup d'être encore avec nous pour inaugurer cette nouvelle ère, ce nouveau partenariat. On va intéressé ce matin à la Libye. Cette semaine, Barack Obama a dit à propos de la gestion de l'après-Kadhafi qu'elle constituait sa pire erreur de politique étrangère, regrettant l'incapacité de son pays à concevoir un plan pour le jour après l'intervention en Libye, qui m'était d'ailleurs alors apparu comme une décision juste, a dit le président américain. Pourtant, depuis quelques jours, l'espoir de la paix renaît en Libye, en effet en décembre dernier déjà, grâce à un accord obtenu au Maroc, sous l'égide des Nations Unies. L'hypothèse d'une réconciliation entre les deux gouvernements, celui de Tobrouk reconnu par la communauté internationale et celui de Tripoli, est désormais sur la table, mais plus encore depuis que son représentant, Fayez El-Sarraj, qui a pris ses fonctions le mois dernier depuis son exil tunisien, eh bien depuis qu'il a eu l'audace de rejoindre donc la capitale libyenne pour concrétiser les choses et mettre en œuvre ce rapprochement. Alors, est-ce qu'on peut enfin croire à la paix en Libye ? Quels sont les obstacles ? Dans quelle mesure la montée en puissance de Daesh pourrait-elle empêcher le processus de réconciliation ? Quelle solution pour administrer un pays miné par les conflits divers depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011 ? Pour évoquer ces questions, tout à l'heure, nos invités, mais qui sont d'ores et déjà avec nous. D'abord, Patrick Hamzadeh, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, ancien diplomate et puis également écrivain, parce que vous êtes l'auteur de ce livre, Au cœur de la Libye de Kadhafi, qui était paru chez Jean-Claude Lattès. À vos côtés, Kader Abderrahim, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes politologue, chercheur à l'IRIS et maître de conférence à Sciences Po. Avant d'évoquer ensemble ces questions autour de la Libye, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Bulgarie.
La Bulgarie sombre, c'est tout ce que je peux dire. Les millionnaires prolifèrent et d'ici 5 ans, ils seront milliardaires. Voilà ce qui se passe. Le peuple se meurt.
Notre Bulgarie va mal. Je vais sûrement me barrer d'ici et ne reviendrai que dans 10 ou 15 ans.
Pourquoi tu reviendrais ? Pour faire quoi ? C'est pas une vie ici. Ici, les gens crèvent.
Nous nous sommes réunis et le micro est à vous. Nous sommes des médecins, des enseignants, des spécialistes. Nous sommes le peuple bulgare. Qu'est-ce qui nous rassemble ici ? C'est la faim. Qu'est-ce que nous voulons ? Nous voulons la liberté. Nous voulons l'équité. Nous voulons l'augmentation de nos retraites de misère. On ne peut plus attendre. On se moque de nous avec ces promesses qu'on nous jette à la gueule et qui ne sont jamais tenues. On nous dit « on vous donnera de l'argent quand il y en aura ». Mais de l'argent, il y en a plein. Alors qu'est-ce qu'on attend ?
Bonjour Guérgui Balabanov.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, vous êtes réalisateur. On vous reçoit pour ce film et le bal continue, qui a reçu d'ailleurs le prix du public au Festival international du film d'histoire de Pessac. C'est un documentaire qui sera diffusé dans quelques jours, le 18 avril, tard, à minuit 20. C'est un documentaire qui présente l'état de la Bulgarie aujourd'hui, le délabrement des institutions 25 ans après la fin du communisme qui devait ouvrir une nouvelle ère démocratique et prospère, pensait-on. Aujourd'hui, les responsables politiques sont corrompus. L'intégration à l'Union européenne n'a peut-être pas eu les effets escomptés. En tout cas, c'est ce que considère une certaine frange de la société. C'est une sorte de bilan de cette période post-communiste que vous tentez de réaliser avec ce film autour de quelques figures centrales, une sociologue, un journaliste, un psychanalyste, un poète dissident, et puis surtout aussi avec des dizaines d'hommes et de femmes de la rue, disons. Votre documentaire s'ouvre justement sur cette jeune femme, cette ingénieure de formation, qui sillonnent les rues pour interroger un peu les Bulgares à propos de leurs conditions de vie, de la manière dont ils perçoivent les responsables politiques. Ils s'interrogent aussi sur l'effet de l'adhésion à l'Union européenne. La première chose qui frappe Guérgui Balabanov, quand on voit votre documentaire, c'est peut-être la pauvreté et la déprime, en tout cas d'une certaine partie des Bulgares. Alors bien sûr, il y a des Bulgares qui s'en sortent très bien, mais globalement, on a quand même l'association de voir un pays qui va très mal, avec une économie exsangue, avec une des populations extrêmement paupérisées. Et les Bulgares, d'une certaine manière, alors il y a évidemment cette colère qui se manifeste, mais assez peu finalement. On sent quand même une forme de résignation, de fatalisme chez les Bulgares.
Je ne sais pas si c'est une forme de fatalisme, c'est plutôt une fatigue, parce que ça a duré plus que 20 ans, 25 ans déjà. Et même, c'est plutôt la fatigue et la déception. Parce que la Bulgarie, il y a 15 ans ou 20 ans, elle était tout à fait différente. Il y avait l'espoir, il y avait toujours un horizon merveilleux. À l'époque, c'était le communisme. Après, c'était la démocratie, l'Europe. Et tous ces horizons, c'est un peu des villages de Potemkin, ce qui cachait en réalité autre chose. Et finalement, aujourd'hui, on est face à la réalité, mais c'est une réalité aussi qui est la réalité du monde d'aujourd'hui, qui n'est pas très bien. Vos invités vont parler un peu de ça et de la d'un président qui avoue qu'il a fait une grave erreur en faisant quelque chose. Donc c'est le monde de l'argent aussi, parce qu'on parle de l'argent dans ce film, de l'argent qui manque, mais l'argent comme aussi une forme de gouvernance du monde général qui le dirige à sa manière sans associer trop de petits gens de la rue.
Et sur cette question de l'adhésion à l'Union européenne, parce que une fois encore, quand cette sociologue va dans la rue interroger les gens pour savoir ce qu'ils pensent de cette adhésion à l'Union, assez globalement, alors peut-être que c'est pas complètement représentatif de ce que pense la société bulgare, mais presque tout le monde vous dit finalement les effets pour nous, c'est pas terrible. On a même par exemple un homme qui dit mais on a plus pillé la Bulgarie en un an que l'Empire ottoman en 5 siècles. On voit aussi cet échange entre plusieurs hommes qui sont dans une salle de sport, dont un homme qui s'appelle Pavel Tchernev, qui est un avocat, qui est un ancien député, qui explique que la Bulgarie paye très cher l'adhésion à l'Union européenne, que l'agriculture s'est effondrée, que les industries tournent au ralenti. Le bilan économique de l'adhésion à l'Union européenne est catastrophique.
Quand même, cet homme, il est un homme politique, il était un ex-député d'une partie nationaliste, donc de toute façon, c'est aussi, il y a quelque chose qui fait un langage plutôt bien pensé chez lui. Mais chez les gens, on peut découvrir que c'est plutôt la tranche des retraités qui est déçue. Il y avait tout ce qui est les gens qui sont au-dessus de, disons, de 20, entre 20 et 40 ans, ils sont plutôt pro-européens. Même à l'université, vous voyez, les jeunes, pour eux, l'Europe, c'est bien. Ils ne croient pas au vote, disons, qu'ils ont fait, parce qu'ils votent et en même temps, ils ne croient pas que les démocraties fonctionnent. C'est très ambigu, tout cela.
D'accord, donc c'est plutôt les anciennes générations qui, finalement, ressentent une certaine nostalgie. Il y a quasiment une nostalgie de l'ère soviétique.
Elle apparaît pas de l'ère... Oui.
Ça, quasiment.
Ça veut dire qu'il avait, à cette époque-là, vie qui était assurée, peut-être dans le niveau assez, disons, bas, mais que c'était quelque chose qui était sûr. Maintenant, c'est eux qui sont les plus, disons, touchés par les problèmes sociaux et les jeunes, ils arrivent de se débrouiller. Il y a une partie qui est partie de la Bulgarie. Il y a quand même 2 millions qui sont dehors de ce pays-là, qui est normal. À l'époque, était de 8 millions. Après, grâce à un bilan démographique qui est très catastrophique, c'est 7 millions. Mais de ces 7 millions, il y a 2 qui sont dehors. Et de ces 5 millions qui sont restés, il y a plus que la moitié qui est des retraités ou l'âge de la retraite qui est très très proche. Imaginez un peu ça. Ça veut dire il faut voir. Et en même temps, si vous voyez, les Bulgares, peut-être, ils ne sont pas très gays, mais qu'il y a une sorte d'humour qui persiste.
C'est vrai. Mais il y a quand même cette terrible amertume par rapport à ces manifestations de 89 qui avaient entraîné la chute du président Jivkov. Toute cette mobilisation, tout cet enthousiasme de l'époque pour à la fois unifier le pays, pour refermer cette page du communisme, elle est vue aujourd'hui comme un immense gâchis. Après cette révolution, justement, le pays a progressivement procédé à la privatisation des biens des entreprises, sauf que ça s'est avéré en réalité une catastrophe, un véritable pillage qui a produit la mise en place d'un véritable système par lequel certains se sont approprié la majorité des richesses et où la corruption est devenue finalement un mode de fonctionnement, un mode de régulation de l'économie. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ?
Mais dites-moi comment on est arrivé là dans des pays qui sont démocratiques comme la Grèce, l'Italie, je peux citer d'autres, mais dites-moi comment on est arrivé. Est-ce peut-être c'est l'homme qui est comme ça ? De toute façon, la Bulgarie, oui, elle est montrée du doigt, mais la Roumanie, c'est la même chose parmi les ex-pays. Mais je vous dis que l'Italie et la Grèce, dites-moi comment ils sont arrivés là. Comment on est arrivé là avec tous ces papiers de Panama, etc.
Dites-moi, alors, je vais vous poser la question autrement.
Dites-moi, et ne vous concentrez pas seulement sur mon pays, mais vous...
Absolument, bon, on est là pour parler de la Bulgarie.
Et de toute façon, tous ces gens-là qui ont fait ça, ils sont des partenaires des instances européennes qui sont... on peut parler aussi de lobbyisme dans les certains cercles des instances européennes, peut-être une forme de corruption, pas tout à fait de ce type-là. Mais nous sommes dans le monde des banques, nous sommes dans les banques des finances frauduleuses.
C'est pas seulement la question de la déviance de l'économie et de la finance, on sent une véritable impunité. Il y a par exemple dans votre documentaire, on se retrouve sur un plateau de télévision lors d'une émission qui est spécialisée sur la question des réseaux criminels, de la mafia. On y voit un journaliste qu'on retrouve d'ailleurs tout du long du documentaire qui interroge un commissaire qui est responsable qui est censé en tout cas lutter contre les mafieux, on voit bien sûr une très forte colère chez le journaliste qui demande des comptes sur un certain nombre d'enquêtes, et puis de l'autre côté, on a un policier qui a l'air totalement désabusé, qui essaye de défendre son travail, mais qui en même temps dit à demi-mot qu'il ne peut rien faire contre les responsables de tout ça. On a l'impression quand même que ces mafieux, oui, parce que en l'occurrence, là, les mafieux dont on parle sont partis dans un autre pays, on a quand même le sentiment qu'ils agissent finalement à distance dans une impunité la plus totale.
J'ai pas de commentaires sur tout cela, ça veut dire, c'est une réalité. Dites-moi, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je ne suis pas un journaliste spécialisé dans ces affaires. J'étais même par hasard.
Mais pourquoi selon?
À cette émission et moi, j'ai filmé seulement ce qui était sur le plateau. De toute façon, c'est évident que tout cela est comme ça. Tout cela est le résultat peut-être d'un changement qui était fait d'une manière que rien ne change, ça veut dire c'est les et que les mêmes deviennent toujours au pouvoir, ça veut dire le pouvoir politique est devenu a changé pour devenir un pouvoir économique et politique en même temps, et c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a tout le temps des rapports qui se font de certains organismes européens qui disent que la Bulgarie a avancé, mais qu'il y a des choses à toujours à faire, etc., etc. Mais moi, finalement, ça ne m'intéressait pas trop. J'ai essayé de regarder un peu l'ensemble des choses. C'est pas un film qui prend position, c'est pas un film politique, il ne donne pas des recettes, il ne pose...
Absolument, non, on est plus dans la description, dans
l'état
des lieux.
J'ai plutôt essayé de voir une étape de l'histoire de la Bulgarie. Les choses ont changé beaucoup, de toute façon. Je préfère cette Bulgarie avec la mafia, avec tout ce bordel, que l'époque communiste, pour vous dire mes sentiments, parce qu'à l'époque tout cela n'existait pas, mais c'était un monde qui était fermé, un monde dans lequel tu ne pouvais t'exprimer. Quelle grande avancée, les gens parlent ouvertement, même plus qu'à Paris, les gens de la rue, même sur les plateaux de télévision, un journaliste il peut se permettre de se poser comme ça, de se comporter comme ça, qui est assez rarement vu. Parce que je quand même regarde la télévision en France, ce qu'elle est à ce moment-là. Donc il y a une grande avancée pour moi, c'est plus important que le reste. Ça veut dire cette ouverture et la possibilité de s'exprimer ouvertement, de regarder et de ne pas accepter, même si tu ne peux pas faire grand-chose, la position de te résigné, pas résigné, mais de voir un refus de croire à quelque chose qui, qu'on te fait, qu'on essaye de te vendre, c'est déjà pas si mal que ça. Mmh.
Alors, il y a un homme aussi dont il faut qu'on parle, qu'on retrouve dans votre documentaire, c'est Nikolaï Kolev, qui est un certain âge, un éternel dissident, un poète, qui organise la protestation contre le responsable politique en lançant des tomates pourries sur le Parlement. Un soir d'hiver, on le voit comme ça donner un discours devant le palais de justice pour dénoncer la corruption et jeter sa tomate pourrie sur la façade du bâtiment. Alors, il salue les quelques manifestants qui sont là pour le soutenir, mais on l'entend, il le dit d'ailleurs, il regrette amèrement l'absence des jeunes. Pourquoi les jeunes ne sont pas là?
Les jeunes, ils ne sont pas là parce qu'ils ne croient pas que même qu'ils peuvent, avec les tomates, changer quelque chose. Et aussi, ils sont ou dans les discothèques, vous avez vu une discothèque avec le chanteur Aziz, la star de la Chauga Bulga, où ils sont à l'université et après chacun se trouve son chemin de. Mais je trouve aussi que peut-être la situation n'est pas encore
suffisamment catastrophique.
Oui, pour que les gens, parce que en réalité, la Bulgarie, sur certains paramètres, c'est un Bulgare qui est prof d'économie, il m'a montré qu'elle est très bien, sauf qu'il y a une grande différence entre les gens pauvres et les gens riches. Mais l'économie, pas comme des paramètres PIB, etc., elle est troisième, quatrième place en Europe. Imaginez ça, c'est très bizarre.
Donc vous pensez que la jeunesse bulgare, finalement, a cette analyse de la situation?
Je ne sais pas quelle est l'analyse de la jeunesse bulgare.
Parce que quand on les interroge, ils sont quand même extrêmement défiants vis-à-vis de leurs responsables politiques. Il n'y en a pas un qui vous dit « oui, je crois en mon Parlement, oui, je crois en un responsable politique, oui, non. Je crois en nos institutions ». Tout le monde, quand même, sent bien pour changer les choses, ça ne se fera pas de l'intérieur, il n'y aura pas de réforme depuis l'intérieur du système, que finalement, ça devra passer à un moment ou à un autre par la révolution, et pourtant, on ne se mobilise pas.
Ça, je ne peux pas vous répondre à leur place. Je ne suis pas un spécialiste de la politique. Je fais des films et j'essaie d'être un peu sincère et juste par rapport à ce que je vois et ce que je constate.
Et une des choses que vous avez constaté, c'est ça, écoutez. Celle d'un chanteur bulgare, Aziz, justement, dont vous parliez, qui est un chanteur de Chalga, d'origine rom, qui est homosexuel et qui s'amuse finalement d'imaginer la honte que doivent ressentir un certain nombre de Bulgares en pensant justement à lui. Il dit les Bulgares l'ont bien mérité finalement, ils l'ont, leur chanteur homosexuel. Elle est incroyable, cette personnalité, extrêmement étonnante. L'homme le plus redevable de la démocratie, dit justement le journaliste dont on parlait tout à l'heure.
Oui, c'est comme ça. En plus, le personnage, il est très pittoresque, c'est un vrai artiste, c'est une bête de la scène. Il est plutôt, c'est la honte de la, une tranche de la intelligentsia bulgare. Sinon, les autres, ils l'aiment, il n'a pas de problème avec les gens ordinaires. Non, c'est plutôt c'est une prétention. Que, est-ce que c'est la culture? Est-ce que, et en plus, il est très. Il est tellement populaire à l'étranger que dans une enquête de New York Times, je crois,
le plus populaire de Bulgarie.
Non, parmi les 25 personnalités de la musique mondiale pop qui ont influencé la culture, il est à la même place à peu près avec comment s'appelait, ça me sortit de la tête, cet Anglais qui est décédé.
Oui. David Bowie. Ouais.
Vous voyez. Ouais. Vous voyez le fait.
En tout cas, il incarne justement l'évolution peut-être du pays et cette liberté dont vous parliez tout à l'heure. Merci beaucoup, Guéorgui Balabanov, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre documentaire et le bal continue. Ça sera le 18 avril prochain à 20h. Merci beaucoup d'être passé.
Sur Arte.
Sur Arte. Merci. Allez, on va tourner notre page bulgare pour se tourner désormais vers la Libye. Libye, la paix est-elle enfin possible? C'est notre sujet ce matin, donc avec Marc Sémo, journaliste au Monde, notre nouveau partenaire, Patrick Hamzadeh et Kader Abderrahim.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
La semaine dernière, donc, le représentant du gouvernement d'Union nationale, né de l'accord trouvé à la fin de l'année dernière au Maroc sous l'égide des Nations unies, a décidé de forcer le destin, de tenter un coup de force. En effet, Fayez al-Sarraj a mis un terme à son exil tunisien pour se rendre à Tripoli, la capitale contrôlée par les milices de Fajr Libya, l'aube de la Libye.
Avec l'aide de Dieu et avec le soutien de chacun, nous allons créer un État avec des institutions et des lois. Grâce à l'aide des Libyens, nous allons travailler à la mise en place d'un cessez-le-feu et nous mettrons fin au bain de sang en Libye.
Voilà, il va devoir désormais mettre en œuvre ce rapprochement entre les différentes entités politiques du pays. Quelles sont ses chances d'y parvenir? Quels sont les obstacles? Comment Daesh pourrait déstabiliser ce processus de réconciliation? L'espoir de paix est-il permis? Voilà les questions qu'on va poser maintenant. Marc Sémo, une chose est très étonnante. On entrevoit désormais en Libye un chemin, alors c'est vrai qu'il est étroit, mais qui existe, qui mène du côté de la paix en Libye. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas tellement il y a quelques mois encore. Et pourtant, on a là les conditions d'un processus de réconciliation qui sont bel et bien là.
Absolument. Et cette installation de Fayez al-Sarraj, alors qui pour le moment est encore dans une base navale près de Tripoli, hein, sous la garde justement de ces milices de l'aube de la Libye, a totalement changé la donne. Hein. Il faut bien voir, il y a déjà une présence occidentale militaire en Libye, avec des forces spéciales, les Britanniques, les Américains, les Italiens, les Français, hein, comme Le Monde le révélait il y a un mois. Mais cette intervention, donc, qui est totalement ciblée pour des choses très ciblées contre les djihadistes, ils font sans faire savoir des opérations avec des drones, quelques éliminations ciblées. Et là, mais il n'est pas question pour les Occidentaux, pour le moment, d'aller plus loin, parce qu'ils sont parfaitement conscients que ce processus politique de reconstruction nationale est en train de s'amorcer autour de Sarraj, même si c'est difficile, même si les ralliements sont longs, et qu'aujourd'hui, continuer même à parler d'intervention militaire. Hein. Il y a encore un mois, on évoquait une intervention, 5000 hommes, même un commandement italien. Tout ça ne ferait que le déstabiliser, que pulvériser ce processus de reconstruction nationale et replonger encore un peu plus la Libye dans le chaos. Parce que ceux qui étaient hostiles à l'intervention de 2011, à commencer par les Italiens qui étaient très massivement hostiles, disaient, voilà, il y a le risque d'une grande Somalie au bord de la Méditerranée. Et quelque part, on y est pour le moment. Parce qu'il y a le problème de l'implantation de l'État islamique. Il y a les migrants, hein, de nouveau, surtout après la fermeture de la route des Balkans, il y a le risque que les migrations reprennent massivement depuis la Libye. Donc il faut faire quelque chose. Mais Fayez al-Sarraj est en train, malgré tout, d'amorcer quelque chose. Cette reconstruction est peut-être possible aussi parce que, et je finirai là-dessus, la Libye n'est ni l'Irak ni la Syrie. Les haines interethniques, les haines religieuses ne sont pas les mêmes. C'est une population globalement homogène, en écrasante majorité arabe et sunnite. Et donc, malgré les rivalités tribales, les rivalités politiques, il y a quand même quelque chose d'un être ensemble qui existe toujours.
Je voudrais commencer avec vous, Kader Abderrahim. Je voudrais votre regard peut-être sur cette arrivée, disons, surprise, étonnante, peut-être inattendue aussi de ce chef du gouvernement d'Union nationale. Est-ce que ça vous paraît de nature à lui apporter la légitimité qui va devoir se construire désormais?
C'est toute la question. Il est déjà contesté dans son propre camp, hein, puisque le gouvernement et l'accord du 17 décembre qui a été signé à Srirat au Maroc sous les auspices de l'ONU n'a pas pu être entériné par les parlementaires qui siègent à Tobrouk, puisque pour des raisons de sécurité, il y en a une partie en Égypte, beaucoup d'autres en Tunisie. Donc on voit qu'il est contesté dans son propre camp. On parle même pas évidemment de ses adversaires. La manière assez rocambolesque avec laquelle il est arrivé en venant de Tunisie, de Zarzir, pour arriver sur la base navale est elle aussi très rocambolesque. Moi j'ai quand même à l'esprit ce qui s'est passé, on en parlait avant l'émission avec Patrick Hamzadeh, le 6 décembre dernier à Tunis, où quand même des Libyens sans ingérence étrangère étaient parvenus à adresser déjà un compromis politique sur une sortie de cette crise. Et immédiatement, notamment les Nations Unies, ce qui est quand même assez incompréhensible, avaient rejeté en disant c'est nul et non avenu.
Parce qu'ils en avaient été exclus.
Mais après tout, si la fonction de l'ONU doit être d'accompagner un processus de sortie de crise et de favoriser la paix, elle aurait dû au contraire s'en féliciter. Et là, on a quand même la très nette sensation que tout ce qui peut échapper au contrôle Alors, on va encore me trouver excessif. Occidental ou onusien n'a pas de valeur. Je
pense Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose dans la nature, justement, de l'accord interlibyen qui avait été trouvé, qui posait problème aux Nations Unies?
Probablement. Il faudra qu'il nous, peut-être, je pense qu'il est le moment d'enquêter et de comprendre viendra. Et peut-être qu'il est déjà venu. Je pense que c'est important parce que ce processus qui a été amorcé depuis l'arrivée de Sarraj il y a quelques jours sur la base navale dans la banlieue de Tripoli est essentiel. Si ça marche là, c'est très bien pour la Libye et pour la région. Il ne faut pas oublier. Je pense que c'est important aussi de se décentrer.
On va essayer de le faire.
Pardon. Mais en même temps, si ça ne fonctionne pas, alors là, on est à nouveau, pour reprendre l'expression, l'horizon va de nouveau s'assombrir pour très longtemps.
Patrick Hanzadeh, vous étiez l'un des rares, je l'ai déjà dit plusieurs fois à l'antenne, l'un des rares observateurs finalement à entrevoir depuis longtemps déjà une solution en Libye, alors que la grande majorité des observateurs voyaient dans cette Libye une sorte de chaos absolument indémêlable, et c'est d'ailleurs un qualificatif que vous avez longtemps rejeté. Aujourd'hui, le pays a un gouvernement d'union nationale, et même s'il est encore fragile et qu'il va falloir trouver une certaine légitimité pour ce gouvernement et ce chef de gouvernement, on est quand même bel et bien dans ce processus de réconciliation, avec de véritables avancées.
Oui, alors il y a des avancées. Moi, je dirais que je suis ni optimiste ni pessimiste. Hein. Je pense que pour l'instant, il y a effectivement beaucoup d'obstacles qui peuvent se lever. Et les facteurs de stabilisation, moi, je les verrais plutôt du côté de la population. Vous voyez, plutôt que du côté de ces hommes providentiels ou débarqués en bateau qui arrivent, parce que effectivement, c'est important. Mais surtout, je crois que ce qui est important, c'est de voir les structures de la société. Et effectivement, on a une population qui est fatiguée. Qui est fatigué de cette absence de perspective, de ces guerres entre factions, entre petits chefs, et qui fait pression finalement sur les acteurs politico-militaires locaux pour faire des compromis.
Et cette pression peut avoir un effet, parce que ce que disait Kader Abderrahim, il a raison, il y a les adversaires qu'il va falloir convaincre, mais il y a aussi dans son propre camp, du côté de Tobrouk, on n'est pas encore tout à fait prêt à s'engager dans ce processus de réconciliation.
Quand je parle effectivement des sociétés, et là j'en arrive à un point qui est plus préoccupant, je parle de l'Est et de l'Ouest. Je pense que ce que j'observe en ce moment, c'est une aggravation de la fracture entre l'Est et l'Ouest. Et donc finalement, que l'arrivée de Sarraj se soit bien passée, à partir du moment où, pour l'instant, c'est 7 hommes, hein, le conseil présidentiel de 9, normalement, n'est même pas réuni, puisque les deux qui soutiennent l'un, Haftar, à l'Est, et l'autre, les Intan, qui est une grande faction de l'Ouest, boycottent le conseil présidentiel de M. Sarraj.
On reprécise, Patrick Hanzadeh, Haftar, qui est donc ce général qui a été nommé commandant en chef de l'armée libyenne, libyenne, et qui avait mené, notamment, je crois, en juillet 2014, si je ne me trompe pas, cette grande offensive contre les islamistes. Voilà, c'est tout.
Alors, donc finalement, ce que j'observe, c'est qu'on a à l'Ouest quelque chose qui se passe plutôt bien. L'arrivée de Sarraj s'est bien passée parce que ça a été négocié avant. Il n'est pas arrivé comme ça une nuit. Les milices qu'il protège ont été contactées avant. Il y a eu de longues négociations. Donc, il est arrivé. Il sait qu'il est protégé. Et alors, c'est assez paradoxal parce qu'il est protégé par ces milices, ces fameuses milices islamistes de Fajol Libya, dont auquel on se refusait de parler il y a encore 2 ans, puisqu'on avait reconnu notre Parlement de Tobrouk et on parlait comme seul interlocuteur légitime le Parlement de Tobrouk. Et là maintenant, du coup, il est arrivé à Tripoli, ça s'est plutôt bien passé, et je dirais l'obstacle maintenant demeure le Parlement de Tobrouk, parce que rien ne peut se faire sans qu'ils émettent un vote et qu'ils autorisent finalement le gouvernement de M. Sarraj à entrer en fonction. Et on voit que là, ça se complique. Parce qu'effectivement, à l'Est, il y a une dynamique militaire qui est en œuvre. C'est la fameuse dynamique du général Haftar, qui est dans sa guerre contre les islamistes, alors au sens large. Et il inclut également ses adversaires politiques, qui sont notamment les gens de l'Ouest. Donc là, il y a une difficulté de réconcilier deux logiques. Et surtout, je dirais que l'instrumentalisation de cette rhétorique militariste par Haftar a commencé à porter ses fruits, puisque la population de Cyrénaïque, qui est encore très tribal et très attaché à ses origines et à son identité régionale, commence finalement à adhérer à cette rhétorique et à craindre que la Cyrénaïque ne soit à nouveau marginalisée. N'oublions pas que l'insurrection de 2011 est partie de Cyrénaïque, qu'il y a toujours une tension entre ces deux régions, le risque. Et du coup, on se retrouve finalement avec à nouveau une fracture finalement politique, mais qui revêt quelque chose de plus profond, hein, qui était antérieur à la situation actuelle, antérieur même à Kadhafi, et qui revient.
Et d'ailleurs, avec en son cœur quand même le sort justement du général Haftar, parce que pour le moment, Tripoli voudrait obtenir sa,
bien sûr,
son évacuation.
Hein. Voilà, l'enjeu, pour faire simple, c'est que finalement, Tobrouk veut maintenir le général Haftar comme chef d'état-major de la future armée libyenne, et l'Ouest ne veut pas. Et alors, finalement, en arrière-plan, on voit aussi dans la fracture entre les deux régions se dessiner une fracture, je dirais, entre révolutionnaires, en tout cas qui se réclament de la révolution, c'est-à-dire qu'on veut faire table rase du passé, et contre-révolutionnaires qui seraient plutôt le camp Haftar, d'autant plus que cette rhétorique est nourrie par le retour d'anciens kadhafistes qui commencent à revenir à Tobrouk, qui ont été amnistiés par le monde de Tobrouk. Et ça, bien sûr, ça donne un argument aux gens de l'Ouest pour dire, voyez, ce sont des contre-révolutionnaires, on n'accepte pas de parler avec eux.
Marc Sémo, avant peut-être d'évoquer la question de Daesh et de savoir quelle est sa capacité à perturber les choses.
Justement, Marc, ce processus que vous évoquez a l'air très complexe, sera en tout cas très long. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque que pendant tout ce temps-là, bon, non seulement les fractures s'aggravent entre l'Est et l'Ouest, donc que vous évoquiez, y compris aussi la question du Fezzan au Sud, qui est un monde en soi, et surtout que l'État islamique, que Daesh, qui est présent là, s'implante de plus en plus et soit de plus en plus difficile à combattre. Et quelle est d'ailleurs la réalité du danger aujourd'hui représenté par l'État islamique, qui contrôle cette zone autour de Sirte, donc sur la côte, à quelques centaines de kilomètres des côtes italiennes. Quelle est la réalité du danger que représente aujourd'hui Daesh en Libye ?
Kader Abderrahim, peut-être d'abord, et puis ensuite Patrick Hamzadeh, sur ce pouvoir de déstabilisation de Daesh ?
C'est un peu plus qu'un pouvoir de déstabilisation. Je veux dire, aujourd'hui, c'est le troisième acteur en Libye. Il y a deux parlements, deux gouvernements. Alors on peut évidemment entrer dans les... Pour le moment, c'est vrai que c'est clair qu'il y a une dynamique qui est plutôt favorable à M. Fayez Sarraj et à ses amis. Mais à Tripoli, rien n'est réglé politiquement ni militairement. S'il y a des milices qui ont fait allégeance à Sarraj, il y en a encore qui sont évidemment, je ne vais pas revenir sur ce que vient de dire Patrick Hamzadeh, qui lui restent très hostiles. Et puis Daesh, c'est le troisième acteur, incontestablement. C'est très compliqué, on a des chiffres contradictoires. On estime qu'il contrôle à peu près 20-22% du territoire, ce qui est énorme. Et puis surtout, ils contrôlent les zones utiles. Ils contrôlent le pétrole, c'est évidemment essentiel pour leur survie. Et aujourd'hui, la question, c'est pas juste de savoir si Daesh a une capacité de nuisance. Il a la possibilité militaire ou politique, on verra si le processus en cours, si cette dynamique parvient vraiment à son terme, de mettre à fin ce processus. Et là, évidemment, ça a des conséquences qui vont bien au-delà de la Libye, et c'est pour la raison principale pour laquelle d'ailleurs les Occidentaux, évidemment, et les Européens, mais également les voisins de la Libye sont extrêmement inquiets et qui voudraient voir enfin une solution interlibyenne se dessiner. Et c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de temps. Daesh, c'est quand même une des conséquences directes à la fois de l'instabilité chronique maintenant du Moyen-Orient, mais c'est également la conséquence directe de l'intervention franco-britannique soutenue par l'OTAN de mars 2011. Donc, quand on parlait tout à l'heure des milliers de Fajr al-Libya qui soutiennent aujourd'hui Sarraj, qui sont des islamistes, je pense qu'il y a aussi des questions à se poser sur la question de nos contradictions diplomatiques. On va parler, on va négocier avec ces gens-là à un moment ou à un autre. Peut-être demain, le fera-t-on, si c'est en Libye, ce sera peut-être en Irak ou en Syrie, avec l'État islamique. Donc je pense que c'est des choses qu'il faut anticiper dès maintenant, savoir comment on peut les traiter et comment on peut les anticiper.
On va venir à cette question de l'action diplomatique et puis de la région, élargir un petit peu les choses. Mais vous, Patrick Hamzadeh, je voudrais vous entendre là-dessus. Alors, vous avez l'air de dire que...
Pour revenir sur les milices et après Daesh, les milices islamistes, faut d'abord, là aussi, il y a tout un panel. Et moi, j'ai toujours dit qu'on pouvait négocier avec ces gens-là. Tripoli, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit que c'était une grave erreur de se couper de ces acteurs qui sont des acteurs importants et légitimes de la Libye post-Kadhafi. Maintenant, s'agissant de Daesh, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que d'abord, 22% du territoire, les chiffres, pour l'instant, ils contrôlent la ville de Sirte et une bande de désert à l'est de Sirte. Effectivement, ça veut rien dire contrôler un désert le long de la côte. On a 2-3 lieux dits avec 200 habitants. Ça peut être pris en une journée et dépris l'après-midi. Donc, je dirais qu'ils sont effectivement implantés à Sirte. Ils sont implantés à Sirte pourquoi ? Parce que Sirte, c'était l'ancien bastion de Kadhafi. Sirte, c'est une ville qui a été extrêmement détruite, bombardée à la fois par les insurgés et par l'OTAN en 2011. Donc toutes les élites locales ont dû s'en aller. Ensuite, par peur du retour de bâton des révolutionnaires. Donc finalement, on a un tissu social à Sirte qui était extrêmement endommagé. On n'a pas eu de milice locale qui a pu s'implanter pour assurer le vide sécuritaire et politique aussi. Donc c'est des milices de Misrata qui sont venues, qui étaient considérées comme des occupantes. Donc il y a eu à Sirte un tissu, je dirais, favorable, ou en une absence de résistance qui a permis à des gens d'ailleurs d'autres régions, voire de pays étrangers, puisque la majorité des gens de l'État islamique à Sirte ne sont pas des Libyens, de venir s'installer à Sirte.
Et vous pensez qu'ils peuvent vacances. Non, mais c'est ça qui est très important. Ce que vous pensez, c'est qu'ils peuvent repartir aussi vite qu'ils sont arrivés. Parce que, en gros, ce que vous dites, vous me corrigez si je me trompe, mais votre point de vue, c'est que dès l'instant finalement que les Libyens ont parvenu à se mettre d'accord, ils s'attaqueront à l'éradication de Daesh et qu'ils peuvent très bien le faire. Et qui en plus ils peuvent le faire seuls.
Bah écoutez, oui, c'est moi je pense. Ils l'ont fait à Derna. Hein. On nous disait Derna, le fief de Daesh, il y a 2 ans. Ils ont viré Daesh du centre-ville. Maintenant, ils sont éparpillés dans les montagnes autour et ils sont militairement défaits. À Sabrata également, hein, quand ils ont décidé de s'attaquer au camp après le bombardement américain il y a 2 mois, ça s'est fait. Et à Sirte, ils pourront le faire. Simplement, ils pourront le faire avec le soutien et avec le relais de responsables locaux. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un minimum de processus de réconciliation et qu'on ne met pas des gens de Sirte pour venir avec des troupes des milices d'autres régions pour reprendre Sirte, ça ne fonctionnera pas. Hein, parce qu'effectivement, ils seront encore accueillis comme des étrangers. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, depuis février 2015 que Daesh est à Sirte, ils n'ont pas réussi à sortir de leur enclave. Ils n'ont pas pris les sites pétroliers. Je suis désolé, Daesh ne tient pas les sites pétroliers, c'est les gardes des installations pétrolières qui sont des milices très puissantes qui, pour l'instant, tiennent les installations pétrolières. Donc, pour l'instant, effectivement, ils aimeraient s'attaquer aux sites pétroliers.
Ils procèdent à quelques attaques, quand même.
Oui, il y a eu des attaques suicides, des choses comme ça, mais je veux dire, on tire un coup de RPG sur un réservoir, ça peut faire sauter... Mais on ne prend pas le contrôle. Un terminal pétrolier, c'est une grosse infrastructure, effectivement très, très dispersée. Donc, on peut faire une action d'éclat, mais pour l'instant, ils n'ont pas les moyens de les prendre. Donc, je pense que ils sont enclavés. Le risque, c'est effectivement qu'ils repartent vers le sud, parce que c'est là où il y a le moins de milices aguerries en mesure de les contrer. Donc là, on revient dans un schéma qu'on connaît, puisque beaucoup sont déjà venus après l'opération française au Mali, sont remontés du Mali. Et donc, là, il y a effectivement une possibilité, je pense, qu'ils jouent là-dessus.
Marc Semo.
Oui, il y a aussi un autre élément qui, sur la faiblesse relative de Daesh en Libye, c'est qu'à la différence de la Syrie et de l'Irak, ou de l'Irak notamment, où les anciens bassistes ont été l'élément structurant de l'État islamique, et qui explique d'ailleurs son implantation et sa force, en Libye, comme vous le disiez vous-même, les anciens kadhafistes ne jouent pas cette carte-là, mais sont plutôt...
Celle du général Haftar.
Ils jouent celle du général Haftar. Donc, les anciens organes de l'État ne donnent pas cette force à Daesh.
Oui, alors qu'il y ait quelques jeunes ou quelques habitants de Sirte qui, par rejet du nouveau régime, puissent alléger Daesh. Mais là, on a plutôt des ralliements individuels, voilà, comme on peut avoir dans tous les pays du monde, avec des jeunes qui effectivement se radicalisent ou décident pour une raison ou pour une autre de rejoindre Daesh. Mais je pense pas qu'on a effectivement, comme en Irak, des structures et des gens compétents, militairement formés pour soutenir Daesh à Sirte.
Kader Abderrahim.
Oui, ça c'est des paroles qui sont extrêmement encourageantes et j'y souscris totalement. Simplement, on voit quand même qu'il y a une dynamique pour Daesh en Libye. On a des écrits clairs, des déclarations de certains nombre de dirigeants de l'État islamique qui encouragent ceux qui souhaiteraient rejoindre l'organisation à aller plutôt vers la Libye. Et on a observé quand même que Daesh était renforcé au moins en termes de combattants. Après, militairement, je ne suis pas compétent pour savoir ce que ça représente, mais il y a une dynamique là aussi. Donc c'est aussi fondamental à très court terme de parvenir à casser cette dynamique, parce que même si il y a un compromis interlibyen, il faudra aussi, dans la foulée, très vite, militairement, casser cette organisation qui est quand même implantée maintenant depuis pratiquement 2 ans, et qui bénéficie, quoi qu'on en dise, de quelque chose de l'ordre de la dynamique politique qui va un peu au-delà du terrorisme et qui concerne évidemment pas seulement la Libye, mais toute la région. Hein. C'est quand même la première fois que le Maghreb est concerné à ce point par l'instabilité chronique qui touchait jusqu'à présent le Moyen-Orient.
Et vous pensez qu'il faudra que cette éradication se fasse justement avec les voisins, parce que jusqu'ici, l'Égypte d'un côté, l'Algérie de l'autre n'ont pas véritablement été impliqués dans les négociations, alors qu'on pense que, bien sûr, ils seraient peut-être importants de le faire à un moment, un moment ou à un autre. Ça sera aussi un des défis.
Oui, enfin bon, en tout cas pour ce qui on a quand même un certain nombre d'indicateurs qui sont clairs. L'Égypte n'a pas hésité à bombarder au moment de l'arrivée de Daesh dans la ville de Derna, à bombarder la ville. Hein. Il n'y a pas eu d'ambiguïté. C'était après le retour au pouvoir, le coup d'État du maréchal Sissi. Oui,
L'Algérie de son côté soutient très clairement le général Haftar.
Absolument, il n'y a aucune ambiguïté. L'Algérie de son côté, elle, son dogme, il est très clair, hein, et il est même constitutionnalisé. On projette pas ses troupes hors de ses frontières, même si on sait qu'évidemment ils sont présents sur le terrain, qui jouent un rôle et qui a une coopération très importante avec les pays de la rive nord de la Méditerranée. Mais c'est clair que l'Algérie ne mettra pas le petit doigt dans ça. Elle peut participer diplomatiquement par son influence dans la région à jouer un rôle dans un règlement politique, et c'est ce qu'elle a tenté de faire et c'est ce qu'elle continue d'encourager. Mais elle est aussi extrêmement marrie de voir qu'on avait tiré la sonnette d'alarme et qu'on n'a pas été entendu là aussi.
Et quid de la France ? Quel regard vous portez sur justement l'action de la France dans ce processus de réconciliation qui a l'air pas terriblement active, en tout cas quand on regarde combien elle l'avait été justement au moment de l'intervention?
Oui, c'est une des grandes interrogations. On a un peu de mal à voir une cohérence d'ensemble dans notre diplomatie, pour dire les choses gentiment, sur notamment le dossier libyen. Évidemment, les déclarations sont là pour favoriser le processus de l'ONU, c'est le moins qu'on puisse faire. Mais qu'est-ce qu'on a fait concrètement pour tenter d'éviter que la Libye ne vive sa seconde guerre civile ? Toute la question est là. On a été quand même assez en dessous de ce qu'on aurait pu attendre compte tenu de notre implication directe dans la situation actuelle.
Patrick Nzédé, comment vous jugez justement l'action diplomatique française, vous qui êtes un ancien diplomate ?
Oui, mais je pense. Alors, je ne sais pas si c'est par effectivement par erreur ou par idéologie, mais je pense qu'en tout cas on a fait pas mal d'erreurs sur ce dossier depuis quelques années. Bon, je l'avais dit à l'époque quand il y a eu l'offensive du général Haftar en mai 2014. On n'a rien dit. On a finalement encouragé des élections qui ont mis en place un parlement qu'on s'est empressé de reconnaître. On était premier pays à reconnaître ce parlement comme seul interlocuteur légitime. Hein, et je pense qu'on a pensé que peut-être Haftar et sa clique pouvaient l'emporter, réinstaurer un régime fort et bon sur le modèle peut-être de l'Égypte. On était aussi sous l'influence. On peut pas le négliger des contrats qu'on était en train de négocier avec l'Égypte. On a une relation privilégiée avec les Émirats qui sont intervenus aussi directement. Donc je pense qu'on était dans une position difficile. Et est-ce qu'on a voulu croire en ça? Bon, le fait est que ça n'a pas marché. Ça a au contraire fait basculer la Libye dans une deuxième guerre civile en 2014. Ensuite, on a poussé à fond cette signature de l'accord de Srelat le 17 décembre, comme ça a été dit, alors qu'il y avait d'autres acteurs qui étaient là pour discuter, qui étaient d'accord pour discuter, mais qui n'étaient pas encore dans le processus. Là, j'ai écrit un article assez long là-dessus dans le Monde diplomatique en février où je reviens sur cette affaire. Et du coup, effectivement, on s'est retrouvé avec un accord bancal, qu'on continue à pousser. Et qui va peut-être marcher. Enfin, le pari, c'est effectivement que Sarraj arrivera à élargir sa base, mais c'est un pari assez risqué. Donc, je pense que les Britanniques et les Américains sont extrêmement présents sur le dossier libyen. Et l'envoyé spécial britannique est quelqu'un qui a été le directeur de cabinet de Tony Blair, qui est un monsieur très puissant, un diplomate chevronné, qui est partout, qui rencontre tous les interlocuteurs. Et je pense que les Britanniques sont extrêmement présents.
Oui, d'ailleurs, ils ont débarqué assez vite, justement, quand est arrivé Sarraj, les Britanniques, les Français, je crois, un diplomate allemand, il me semble.
Italien.
Voilà. Patrick Hemzadeh, sur les erreurs, alors qu'il ne faudrait pas commettre maintenant, parce que l'une des choses que craignent peut-être les Libyens, c'est qu'on intervienne. Or, on entend un certain nombre de pays mener des actions. Effectivement, Marc tout à l'heure rappelait que Le Monde avait sorti cette information selon laquelle la France aurait mené des opérations. L'Italie, c'est pareil, on entend régulièrement des hypothèses d'intervention. On se souvient que John Kerry s'était même déplacé à Rome pour jauger un petit peu, parce que lui, il pousse pour que ça intervienne, pour jauger un petit peu les velléités interventionnistes. Vous pensez que c'est ça l'erreur qu'il ne faut pas commettre ?
Je pense qu'il faut effectivement éviter, on ne peut pas à la fois soutenir ce processus politique et passer son temps à parler d'intervention militaire. Hein, alors ça a été beaucoup fait après les attentats du mois de novembre, sûrement pour des raisons de politique intérieure, parce qu'il fallait montrer qu'on affichait une fermeté. Il y a aussi des gens, sûrement au ministère de la Défense, qui soutiennent cette option. Mais on voit bien que la barre a été légèrement recadrée. Et maintenant, on n'en parle plus. Au contraire, on dit que c'est plus dans l'ordre des choses. Donc, est-ce qu'on s'oriente plutôt vers une politique de containment, d'endiguement, avec des bombardements ciblés ou des actions ciblées? C'est un petit peu la doctrine Obama, finalement, et plus une intervention ouverte. L'avenir le dira. Mais en tout cas, je pense que déjà, la première chose, c'est d'arrêter de parler en permanence d'intervention militaire et surtout de ne faire une lecture exclusivement contre-terroriste du dossier libyen. Je pense que le contre-terrorisme sera réglé quand, effectivement, il y aura un processus de réconciliation qui se mettra en place, qui permettra aux Libyens de prendre ça en charge.
C'est en tout cas ce que les Libyens veulent. C'est le sens de la feuille de route qu'ils ont proposée.
Je pense que c'est ce que veulent les Libyens.
Kader Abderrahim.
Oui, on voit que les conséquences de cette intervention de 2011 n'ont pas fini de produire leurs effets. On voit que ça a provoqué une conséquence directe, l'instabilité chronique maintenant au Sahel, au Mali, avec la dispersion d'un armement, puisque l'arsenal du colonel Kadhafi était considérable. On a quand même des partenaires, pour pas dire plus des alliés, sur la rive sud de la Méditerranée qui avaient tiré la sonnette d'alarme. Pense à l'Algérie, au Tchad, quand même pas rien.
Et aujourd'hui, faut-il ou ne faut-il pas intervenir?
Non, mais pour ce qui me concerne, j'ai jamais cru qu'on pouvait à nouveau intervenir. Intervenir sur quoi? Comment? On avait là trois acteurs, des milices par dizaines, plus ou moins importantes, certes, mais on aurait fait quoi? Diplomatiquement, c'était l'échec absolu, et militairement, on n'imagine même pas les conséquences. Donc, pour ce qui me concerne, je pense que c'était un discours qui avait surtout une vocation interne pour nos opinions publiques, et je ne vois pas comment et quelle aurait été la logique, quel aurait été le projet. Donc ça me paraît aujourd'hui extrêmement compliqué. Mais en revanche, on peut voir aujourd'hui, si on regarde un peu avec distance ce qui s'est passé en 2011, les conséquences sur la Tunisie, pays par terre, qui tente malgré tout de s'accrocher et de renforcer son processus diplomatique. On peut voir aussi les conséquences sur l'environnement de la Libye, avec des attentats, on n'en parle pas beaucoup, mais au Cameroun, au Tchad, au Mali, on a eu le Burkina Faso, l'Algérie qui est évidemment extrêmement inquiète, qui a 1000 kilomètres de frontière commune avec la Libye et qui avait elle aussi tiré la sonnette d'alarme. Donc est-ce que la question, c'est pour reprendre la formule de Bertrand Badie, hein, on a mis du désordre, est-ce que maintenant on a la capacité de remettre un peu d'ordre dans cette situation? C'est toute la question qui est posée à mon sens aujourd'hui, et elle vaut pas seulement pour la Libye, parce qu'évidemment ils sont dans une situation dramatique, mais ça vaut aussi pour nos partenaires.
Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi se méfier de ce qui s'est passé en Syrie, c'est-à-dire cette internationalisation du conflit avec des acteurs qui au fur et à mesure rentrent dans le jeu? On peut penser aussi à la Russie, dont on n'a pas encore parlé. Vous avez entendu cette semaine l'ambassadeur aux Nations Unies russe Vitaly Churkin qui a critiqué l'action des Occidentaux, considérant qu'ils avaient leur propre agenda sur cette question de la Libye et qu'il fallait se méfier de cet aventurisme unilatéral. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce risque?
Il y a aussi les conséquences du fait que les Chinois et Russes ont eu le sentiment qu'on leur avait tordu le bras, puis ensuite qu'on les avait un peu beaucoup menti. Et donc ensuite, avec toutes les conséquences diplomatiques sur la Syrie qu'on a pu observer par la suite. Donc évidemment, je pense qu'il faut toujours être extrêmement prudent. Ce qui revient en réalité au devant de la scène aujourd'hui, c'est la question de l'interventionnisme occidental depuis 30 ans et qui est remis en cause.
Patrick Elzadeh, on a
l'internationalisation de la crise en Libye a déjà commencé. Comme vous l'aviez dit, les acteurs, l'acteur égyptien joue un rôle extrêmement important, hein, et qui explique aussi la montée en puissance de ce qui se passe à l'Est. Hein, les Émirats aussi, hein, on l'a vu, les Émirats sont intervenus directement en bombardant Tripoli à l'été 2014. Et puis, effectivement, les grandes puissances, entre guillemets, en faisant pression sur les acteurs locaux, en les faisant apparaître aussi comme un petit peu parfois des marionnettes de puissances étrangères, ne contribuent pas à ce que le processus avance. Donc finalement, je pense que parfois, on croit qu'effectivement, on a encore un rôle important à jouer, alors que finalement, là aussi, un des grands enseignements des conflits de ces dernières années, c'est que finalement, tous ces conflits ont des acteurs qui s'autonomisent. hein, et qui ne suivent pas forcément les directives de leurs grands parrains. Donc je crois qu'il faut, c'était pour finir sur une note d'optimisme, en fait il faut peut-être changer l'échelle du temps, hein, sur la Libye, s'arrêter de penser qu'on aura dans les semaines ou dans les mois à venir des avancées décisives. Ça va prendre du temps. On est là face à une reconstruction d'un État et surtout une reconstruction d'une nation. Et donc là, ça peut prendre effectivement des années. مادام في جنبي البويسن يقتل حتى في الحس جسمي ديما متبنش معاش بدات نحس عقلي اللي كنت تحول يا ونشبت حتى منفاس.
Merci beaucoup à tous les trois, Marc Sémo, journaliste au Monde, notre nouveau partenaire désormais le vendredi, Patrick Mzadeh au cœur de la Libye de Kadhafi, c'était chez Lattès, et un grand merci également à vous Kader Abderrahim, et puis je remercie une fois encore Guéorgui Balabanov, et j'invite les auditeurs à regarder son excellent documentaire sur la Bulgarie qui sera diffusé le 18 avril prochain sur Arte à 20h30 avec bien sûr des rediffusions. Merci beaucoup à tous.